VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, la récente flambée de violence à Juba et la crainte d'un nouveau conflit à grande échelle au Soudan du Sud sera au cœur des discussions du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche à Kigali au Rwanda. L'ambition affichée par l'Organisation panafricaine de faire taire les armes sur le continent d'ici 2020 a été une nouvelle fois sérieusement mise à mal par le déferlement de violence pendant 4 jours dans Juba, entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles, aux ordres du vice-président Riek Machar. Aucun bilan des 4 jours de combat n'est disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes, militaires et civiles, dont 2 casques bleus chinois, ont été tués à Juba, mettant gravement en péril un accord de paix signé en août 2015. Au moins 36 000 habitants de la capitale sud-soudanaise, apeurés, ont fui leur foyer. L'Union africaine, sous l'impulsion du Rwanda, va lancer un passeport symbolique qui, à terme, permettra aux dirigeants et citoyens africains de voyager librement. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Maurice Magoran.
Le 27e sommet de l'Union africaine, du 17 au 18 juin prochain à Kigali, marquera le lancement effectif du passeport africain d'après la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Mme Louise Mushikiwabo.
Le passeport panafricain qui va être lancé au cours de ce sommet fait partie d'un processus. Donc nous sommes au début d'un processus d'intégration continentale. C'est pour cela que les quelques passeports qui seront délivrés ici à Kigali sont plus ou moins symboliques. Nous voulons signaler le début d'une ère de libre circulation.
L'objectif de ce passeport africain, c'est de faciliter à terme la circulation des personnes et des biens en vue de l'intégration économique et sociale du continent. Les premiers bénéficiaires en seront les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union africaine. Pour Jennifer Chiriga, la directrice de cabinet de la Commission de l'Union africaine, l'avènement du passeport africain sera un pas de plus vers une Afrique forte, prospère et intègre. Elle assure que cette fois-ci, c'est du concret.
Je peux vous assurer que ça ne sera pas un passeport de plus. La différence avec les autres passeports, lorsque vous les avez, vous êtes obligé d'avoir un visa pour le voyage. Mais celui-ci vous assure de voyager en Afrique sans visa.
Au cours de ce sommet, quelques passeports seront remis symboliquement au président, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères et aux autres représentants. Ensuite, chaque pays prendra le relais, selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo.
Il n'y aura pas de passeport africain que pour les chefs d'État, que pour les diplomates. Mais comme c'est un sommet de chefs d'État, de diplomates, on a voulu lancer ce processus d'une manière symbolique. Et puis, la deuxième étape sera à chaque pays, en collaboration avec l'Union africaine, d'imprimer ses propres passeports et de pouvoir les distribuer selon la législation nationale.
Ce passeport s'inscrit dans un programme plus large, celui de l'Agenda 2063, un plan d'action sur 50 ans, fixé en 2015 pour faciliter l'intégration régionale africaine. Maurice Mangorane, VOA Afrique, Kigali.
Fin hier, à Arusha, en Tanzanie, des consultations pour la sortie de la crise au Burundi, ce second round a connu une avancée significative des leaders de la plateforme Sénared qui avaient boycotté les premières consultations de mai dernier ont été conviées au dialogue. L'ancien président tanzanien et facilitateur Benjamin Mkapa doit rendre compte dimanche à Kigali au Rwanda devant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en vue de faire approuver son plan de sortie de crise qui deviendrait ainsi contraignant pour toutes les parties. On écoute l'ancien président burundais Sylvestre Intibantunganya.
Je pense que le médiateur a une stratégie, à mon avis, très opportune, qui peut aider les uns et les autres à se rendre compte de la gravité de leur responsabilité par rapport aux attentes du peuple burundais aujourd'hui. Il a pu écouter tout le monde. Il a pu constater là où se trouvent les obstacles. Et ce qu'il faut encourager, c'est qu'il faut cette peur de rendre compte à ceux qui l'ont mandaté. En l'occurrence, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et maintenant, il faudra que le chef d'État soutienne l'action que mène le facilitateur et cela pourra aider dans les jours à venir. En tout cas, en ce qui me concerne, mon souci est que chacun parmi les nous-mêmes y compris, nous fassions les efforts nécessaires pour que ces négociations que tous les Burundais attendent se réalisent en trouvant les solutions les plus adéquates et les plus efficaces possibles pour que cette crise soit surmontée, trouver des voies de solutions qui répondent effectivement aux attentes des Burundais et qui rassurent la région qui s'inquiète certainement des conséquences d'une quelconque dégénérescence de la crise burundaise.
L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantuganya à Arusha. Quelques 111 000 électeurs sont appelés à choisir leur président dimanche à Sao Tomé et Principe. Ce petit archipel africain pauvre et endetté est en quête d'investissement pour développer son potentiel touristique et pétrolier, en plus des productions de café et de cacao. Au Nigeria, des contrats d'équipement des forces armées luttant contre l'insurrection de Boko Haram ont été entachés de corruption. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement nigérian dans un communiqué faisant le point sur son enquête sur l'utilisation des fonds alloués à la sécurité. Une commission d'enquête mise en place par le président Muhammadu Buhari, élu l'an dernier, a constaté que des contrats de défense avaient été attribués à des sociétés qui manquaient de la compétence technique nécessaire, a précisé le communiqué publié jeudi soir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et la nouvelle de ce jour, le président François Hollande a décrété 3 jours de deuil national en France de samedi à lundi après l'attentat qui a fait au moins 84 morts jeudi soir à Nice. Les drapeaux vont être mis en berne sur les édifices publics dès ce vendredi. Un projet de loi prolongeant jusqu'à la fin du mois d'octobre l'état d'urgence en vigueur depuis les attaques djihadistes de novembre 2015 à Paris sera par ailleurs soumis mercredi et jeudi au Parlement. Cela dit, c'était l'horreur hier à Nice. Un camion a foncé dans une foule en pleine festivité de la fête nationale. L'attaque s'est déroulée sur le front maritime de la ville aux environs de 22h30, heure locale. Retour sur les événements, Annal Besson.
Le dernier bilan fait état de 84 personnes tuées et plusieurs dizaines de blessés dans cette attaque terroriste. Les victimes revenaient d'un spectacle de feux d'artifice sur la promenade des Anglais, une avenue bordant la façade maritime de la ville de Nice et qui grouillait de monde. Le président français, François Hollande, qui se rend à Nice plus tard dans la journée, a fait savoir qu'il allait demander une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, entré en vigueur suite à l'attaque terroriste de Paris en novembre dernier. Une cellule antiterrorisme au sein du bureau du procureur à Paris est chargée de l'enquête sur l'attaque. Les médias français font état d'une pièce d'identité trouvée dans le camion, suggérant que le conducteur avait la double citoyenneté française et tunisienne et était âgé de 31 ans. La police a tué le chauffeur du camion et cherche à savoir s'il avait des complices. Les témoins affirment que le conducteur du camion tirait avec une arme à feu alors qu'il zigzaguait à travers la foule. Les autorités ont aussi révélé que le camion était bourré de grenades.
Et le chauffeur du camion a été formellement identifié selon l'AFP qui cite des sources policières. Cet homme est bien le propriétaire des papiers d'identité au nom d'un franco-tunisien de 31 ans, domicilé à Nice, retrouvé dans le camion par les enquêteurs. La plus haute institution de l'islam sunnite en Égypte, Al-Azhar, a condamné l'attentat de Nice qui a fait plus de 80 morts, appelant à l'unité pour débarrasser le monde du terrorisme. Ces attaques terroristes abominables contredisent les enseignements de l'islam, a-t-elle dit dans un communiqué. Al-Azhar affirme la nécessité d'unir les efforts pour vaincre le terrorisme. Des milliers d'Irakiens sont descendus aujourd'hui dans les rues de Bagdad pour réclamer des réformes au gouvernement accusé de corruption, malgré la mise en garde des autorités qui leur avaient demandé de rester chez eux. L'appel à une manifestation massive a été lancé par l'influent chef chiite Muqtada Sadr pour réclamer un nouveau gouvernement composé de technocrates et capable de mettre en place des réformes pour lutter contre la corruption, le népotisme et le clientélisme. Muqtada Sadr a fait une brève apparition au rassemblement où les manifestants, arborant des drapeaux, criaient « oui, oui aux réformes, non, non au confessionnalisme, non à la corruption ». Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire d'État américain John Kerry n'ont pas évoqué lors de leur entretien jeudi l'idée d'une coopération militaire directe contre les djihadistes en Syrie. C'est ce qu'a indiqué le Kremlin. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.